Nous étions à l'aurore du XXIe siècle et cela ressemblait à un crépuscule. Depuis plus de 150 ans qu'il hantait l'Europe, le communisme avait été presque entièrement réduit à l'état de spectre. Le mouvement ouvrier, qui avait fait grandir à chacune de ses victoires l'espoir que l'histoire de la conjuration du communisme allait enfin cesser, était lui-même déjà devenu de l'histoire de la grande politique. Le siècle d'avant venait de s'achever. Sa fin avait coïncidé avec l'effacement, sous la terreur semée en un haut lieu de l'Empire, de 3 jours d'émeutes anticapitalistes, moins de 2 mois auparavant, à l'occasion d'une de ces réunions de chefs d'État des pays les plus riches, qui avaient établi ses quartiers en la vénérable ville de Gênes. Pour qui, en cette fin de juillet 2001, avait fait là l'épreuve d'une irréversibilité, d'un événement et d'une exigence, les temps qui suivirent furent d'étranges temps. Ce furent des années de recherche et de tâtonnement, des années d'expérimentation. Pour nous autres communistes, il s'agissait de chercher ce que pouvait signifier « cesser d'attendre ». Il nous était de toute façon devenu impossible d'imaginer une révolution qui ne puiserait pas ses forces dans un communisme vécu, le plus loin qu'il serait possible de l'élaborer. Parmi nous, certains disaient « Pour faire la révolution, il suffirait de 100 personnes qui s'aiment ». Mais chacun pouvait éprouver que nous ne savions plus très bien le sens du mot « révolution », ni même au fond ce que signifiait « s'aimer ». Il était aussi difficile d'en parler que de se taire. Mais vivre sur un sol de fausses évidences produisait régulièrement de grands ravages. Il arrivait aussi que la mise en partage d'une parole trop confiante dans le pouvoir de la réflexion finisse d'hystériser tout. Nous en étions là, lorsque la nécessité de se protéger d'une épidémie de grippe vint fournir à quelques-uns l'occasion d'une retraite d'études. Retiré en un lieu hors de la ville, avec des questions, des livres et des vivres pour plusieurs semaines, ils se contraignirent à conserver de ce studio loisir quelques traces. De leur conversation d'alors, presque toutes les paroles se sont envolées sitôt prononcées. Seuls demeurent des fragments sur lesquels prenaient appui leurs échanges, et quelques bribes de ceux-ci, dont le souvenir est resté.
Nous allions répétant que, depuis plus de 150 ans, la possibilité du communisme, partout tangible, était aussi partout suspendue, que l'histoire des 2 derniers siècles était celle de la conjuration du communisme. Et nous avons commencé de chercher sérieusement ce qui s'était passé, ce qui faisait ainsi obstacle, moment par moment, à l'instauration du communisme. Il y avait, en suspens, la question du travail. La plupart d'entre nous avaient fini par en déserter les couloirs, autant par décision que par impossibilité d'en endurer l'épreuve isolément et sans espoir que ça s'arrête jamais. Seule la perspective de fomenter des complicités nouvelles nous donnait de loin en loin le courage de passer contrat avec un employeur sous une forme ou une autre. Il était difficile de dire si la disparition des formes traditionnelles du salariat, du moins dans nos pays, était, dans la perspective d'une révolution, une bonne ou une mauvaise nouvelle. Nous nous souvenions que la révolution communiste, Marx l'avait théorisée pour une société de travailleurs, comme subversion du monde de la marchandise et abolition du travail. Mais nous n'avions plus à faire dans nos chairs l'expérience du lien qui engrenait le communisme à la fatalité du travail. Cette fatalité était devenue pour nous celle de devoir, sous 1000 formes possibles, apprendre à nous vendre. Je ne me souviens plus.
Je me souviens, dans une de ces conversations un peu brumeuses que nous avions, d'un échange qui fut à peu près celui-ci. Quelqu'un disait « Voilà, il y a eu des révolutions, mais le communisme attend toujours. La marchandise et son monde semblent pouvoir survivre à tout. Pour ce qui est du travail, la question est devenue aussi volatile que la valeur, aussi diffuse que les lieux de son extraction, au point qu'on ne sait même plus d'où partir pour la poser. Et je ne sais plus qui a lancé. Bien sûr, puisqu'on a oublié l'amour. L'amour ? Quel rapport avec le travail ? Et avec le communisme, tu dis ça pour plaisanter ? A fait le premier. Et l'autre lui a répondu : pas du tout, mais c'est en la rangeant toujours au rayon des plaisanteries que ceux qui ont fait de la révolution une affaire sérieuse ont évacué la question, la laissant à Fourier, à quelques anarchistes de bonne volonté, ou même à la psychanalyse. Pourtant, combien d'âmes communistes sont nées dans la tempête d'un amour ?
Je ne me souviens plus du détail de la conversation. Seulement que, du coq à l'âne, nous nous sommes demandé quelle liberté sexuelle n'est pas, à la fin, soluble dans le libéralisme existentiel. Et aussi que nous ne pouvions pas nous contenter d'en appeler à une nouvelle éducation sentimentale. Il nous fallait essayer de dresser un inventaire des contraintes à prendre en compte pour nous rendre capables d'aimer, ou bien, en connaissance de cause, prendre notre parti de la disparition de l'amour.
Est-ce que tu veux retourner voir les usines ?
Non.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?
Je ne sais pas.
Est-ce que tu veux te baigner ? Faire du bateau ?
Non.
Est-ce que tu sais où tu dors ce soir ?
Non. Faudrait voir à arrêter d'exploiter nos frères.